Bonjour tout le monde, on va commencer même si on est peu, déjà 9h dépassé. Donc ça va Jenny, pas trop stressé. Ça va bien, that's it. Fait qu'on a, je suis bien content d'aller à votre mariage la semaine prochaine, j'aime beaucoup les mariages, surtout pour la fête. Non mais c'est, oui, ils sont bêtes là, fait que, ils nous ont choyé, ils nous ont invités. Donc ce matin, ça va être. Je suis rendu à l'étape du cours où ce que j'avais jamais préparé cette section du cours-là. On est rendu à Genèse 9, c'est que moi, c'est bien, c'est que ça me demande plus de travail. Il faut que je bâtisse le cours à partir de zéro, à partir de maintenant. C'est correct. Dans les fois précédentes, j'avais enseigné, on ne s'était jamais rendu à Genèse 9. On avait toujours fini avec le déluge. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui voudrait prier ou. Ouais, il finissait à l'eau, c'est bon, ça, c'est bon. Il tombait à l'eau, mon cours, ça est rendu là, j'arrêtais. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier pour notre temps ce matin? Faites-en pas, je suis en backup, s'il y a que. Je vais prier. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps ce matin encore. Merci pour ta paix, Seigneur, qui est dans nos cœurs. Merci pour ta joie. Merci pour ton esprit qui peut produire son fruit dans nos cœurs, Seigneur. Et c'est une grâce de pouvoir être habité de façon permanente par ton esprit en tant que tes enfants. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour ton merveilleux évangile qui est enfermé dans cette parole et qu'on découvre, Seigneur, parce que tu nous as laissé ces écritures. Je te prie ce matin, Seigneur, de parler à nos cœurs encore, qu'on veut regarder plus que des histoires de la Genèse, on veut apprendre à te connaître, on veut voir comment tu agis avec l'être humain et qui tu es. Je remercie pour les étudiants qui sont ici, merci pour ce que tu fais dans leur vie, dans la mienne, merci pour ton Église, Seigneur, et je te prie de bénir cet avant-midi, le temps de louange ensemble aussi, le temps de la prédication. Que nos cœurs puissent être réceptifs et disposés à obéir et à compléter ta mission, Seigneur. Amen. Hello. Donc, la semaine dernière, en théorie, si vous n'avez pas de questions, c'était pas mal le dernier cours sur le déluge. Je pourrais m'éterniser pendant des mois sur le déluge et on pourrait en dire, il y a tellement de choses à dire. Dans le fond, s'ils n'avaient pas de questions, je pensais qu'on pourrait continuer. Là. Est-ce que des trucs, là, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on parle du déluge, est-ce que des choses ne sont pas claires dans votre esprit? Peu importe.
C'est peut-être plus un commentaire.
Oui, allez-y.
Oui,
une branche d'olivier, oui.
Ouais, tu dis, pourtant, il n'y a pas eu assez de temps de croissance pour qu'une plante.
Ouais, je comprends. Ils ont fait, il faudrait que je le retrouve, je vais prendre une note. Ils ont fait une petite étude sur cette question-là, parce que justement, il ne faut pas oublier quand même que l'eau a commencé à résorber après 150 jours de domination. L'eau du déluge, après ça, a commencé à se résorber. Donc, le sec n'est pas apparu tout de suite. Mais il y a du sec qui est apparu quand même avant. Des sections sèches ont apparu avant que Noé sorte. Là, il y avait quand même des sections. Ça a pu se faire quand même dans les mois qui ont précédé. Il y a pas assez peut-être pour que les Noé et sa famille sortent de l'arche, mais certainement certains secteurs étaient déjà ouverts et c'était suffisant pour que des entailles ou des graines de végétaux puissent recommencer à pousser une fois qu'ils étaient exposés à l'oxygène. T'sais. Entre autres, ce qui est intéressant avec l'olivier, c'est que c'est un arbre qui est capable de pousser dans des conditions assez particulières. Je me rappelle pas les détails, mais je sais que c'est un arbre qui pousse dans des conditions particulières, plus difficiles tout du moins. Puis, je vais le prendre en note pour pas dire des affaires au travers de mon chapeau, mais je le sais que c'est pas anormal que ce soit cette espèce de végétaux-là, de végétal, que la colombe ait ramené et pas un autre. Puis aussi, on était dans la région là, qui correspond aujourd'hui au Moyen-Orient, tu sais, où est-ce qu'il y a Harara dans ces coins-là. Oui, sauf que la colombe, elle a pu voyager un bout pour trouver cette branche-là.
Sauf que dans ces coins-là, c'est pas
Oui, oui, c'est oui, c'est vrai. C'est vrai.
Le bateau qui avait dû être déjà au sol avant
quand il a envoyé
avant d'envoyer le colon, il était peut-être déjà sur le mont.
Il était déjà accosté.
Je pourrais revoir le récit, mais je crois que le bateau avait déjà. On peut avoir facilement la réponse. Oui, l'arche s'est arrêtée sur les montagnes. Après ça, Noé a commencé d'envoyer les oiseaux pour vérifier quand est-ce qu'il pourrait songer à sortir de l'arche. Mais je sais que j'avais lu quelque chose là-dessus, j'avais trouvé ça intéressant. C'est que je vais le prendre en note. Là. C'est des petits détails, hein. C'est des détails, mais qui rehaussent la crédibilité du récit. Là. C'est pas, on voit que c'est quelque chose qui a pu se passer normalement. Je trouve ça intéressant quand même de prendre le temps des fois d'arrêter sur ces détails-là. Une autre chose, j'y pense, là, c'est un petit détail, mais je pense que je l'ai dit trop vite à l'époque. Les traductions sont différentes là-dessus. Lorsque Dieu demandait à Noé d'emmener un couple de chaque espèce, mais il a aussi demandé d'amener plus d'individus des espèces pures. Okay? Il n'a pas demandé juste un couple. Dans notre traduction, dans la Louis II, dépendamment de celle que vous avez, ils disent 7 couples. Mais c'est pas clair. C'est pas clair, même ça, c'est pas clair que ça veut dire dans l'hébreu que le mot qui est utilisé veut dire nécessairement 7 couples. Ça peut vouloir dire 7 individus. En anglais, c'est un peu plus clair. Dans la King James Version, ils disent bring clean beast of sevens. Ils ont traduit en anglais juste par « sevens ». C'est que ça peut être sept quelque chose, sept individus ou sept paires.
C'est-tu sept maximum ou sept de différents groupes?
Différents groupes. Chaque espèce d'animaux peu, il y en amenait. Moi, je crois qu'il en a amené sept individus de chaque animal pur, OK? Puis le fait que c'est un nombre impair, ça va dans le sens que Noé allait en utiliser au moins un individu pour faire un sacrifice après le déluge. Puis aussi, le fait qu'il a emmené plus de paires d'animaux purs, c'est que ça révèle qu'il y avait déjà une pratique chez les gens qui invoquaient l'Éternel, chez ceux qui marchaient avec Dieu. Il y avait une pratique de sacrificiel. Là. On remonte à Abel. Vous voyez qu'Abel était déjà berger, puis c'était déjà une instruction qu'il avait eue de la part de Dieu, que Dieu aimait les sacrifices, puis que les sacrifices étaient nécessaires, ou est-ce que le sang de l'animal coulait sur lors du sacrifice. Bon, on n'a pas tout l'enseignement dans Genèse, on peut comprendre ce qui devait se passer si on va dans Hébreu, puis on va dans le Nouveau Testament, mais l'enseignement était déjà là, c'est que c'est Dieu, quand il a demandé à Noé d'amener plus d'animaux peu, c'est parce que Noé, en sortant de l'arche, il allait continuer à vivre une vie où il pratiquait des sacrifices en honneur de l'Éternel, puis... Donc, c'est tout à fait normal que ces animaux-là puissent se reproduire plus vite pour en avoir plus vite, parce qu'il y en avait particulièrement besoin. Comprenez? C'est que tout ce que j'avais mentionné que c'était 7 couples, c'est pas nécessairement clair, j'irais plus vers 7 individus. C'est que c'est juste un détail. C'est que le déluge est terminé. Et on a vu, je pense, les deux points à se rappeler pour le déluge, c'est que c'était vraiment une catastrophe. Je dis ça parce que souvent, on se rappelle l'histoire du déluge comme autre chose qu'une catastrophe, alors que c'en était une. À un point tel aussi, c'est une catastrophe universelle, à un point tel qu'aujourd'hui, on peut regarder partout, puis le déluge a des évidences du déluge universel, il y en a partout sur la planète. Pour ne pas les voir, il faut les ignorer. Il faut s'être monté un autre système de pensée, c'est ce que les gens font aujourd'hui. Mais si tu ne te mens pas à toi-même, des évidences du déluge, il y en a partout. Et à quelque part, Dieu est bon. Dieu veut que la race humaine ait un souvenir de cet événement-là parce que ça va lui rappeler qu'il y a eu jugement pour le péché. Que c'est pas vrai que le Dieu n'intervient pas. Dieu ne laisse pas impuni le mal sur la terre. C'est que ça, c'en est une preuve à travers le déluge. Et on va voir que Dieu va faire d'autres alliances aussi avec la race humaine, avec l'arc-en-ciel. C'est que, on va le voir, là, c'est que c'est pas comme si Dieu n'est pas soucieux qu'on puisse se rappeler, qu'on ait des souvenirs sur ses alliances. Bonjour, chérie. Donc c'est les éléments pour le déluge, pour moi, là, que je trouve que c'est important de se rappeler, c'est l'élément catastrophique, à quoi ça sert, ça va servir de souvenir pour les générations futures. Puis évidemment, c'est oui, c'est une manifestation du jugement de Dieu, c'est clair, OK? Mais en même temps, le déluge est aussi une aussi grande manifestation, sinon plus, de la grâce de Dieu, parce qu'on est encore là aujourd'hui. C'est avec Dieu pour, on en avait parlé, donc pour un seul homme juste, parce qu'au moment où Dieu a déclaré ça, de tous les fils de Noé, en passant, je n'avais pas mentionné ça aussi, Noé a eu certainement plus que trois fils avant qu'il ait 500 ans, OK? Le déluge est arrivé à sa 500e année. Mais il y en a trois qui ont finalement suivi l'Éternel. C'est que je ne sais pas comment il y avait d'autres fils, mais ce n'est pas toute sa famille non plus qui ont suivi dans ses pas. C'est que son témoignage a eu un impact dans le cœur de trois de ses gars et de leur femme. Tu sais. Mais
ça doit être des jeunes couples aussi
qui n'avaient
pas d'enfants.
Probablement. C'est possible qu'ils étaient plus jeunes aussi. Puis peut-être qu'ils avaient des enfants aussi. Peut-être qu'il y a des plus vieux couples qui avaient des enfants. Tu sais, on s'entend qu'ils étaient peut-être plus âgés aussi. Oui, mais le point, c'est qu'au moment où ce que Dieu a constaté la justice de Noé, il était le seul à marcher. Okay? Ça veut dire que ses enfants n'avaient pas encore suivi dans son exemple. Et donc, mon point, c'est de dire que le déluge est aussi un enseignement, est aussi une manifestation de la grâce de Dieu. À cause d'un seul homme, Dieu a sauvé la race humaine au complet et les animaux, etc. Bonjour. Donc, si à se souvenir du déluge, on a parlé de beaucoup d'autres choses, mais je dirais qu'il y a ça à se souvenir. Et donc, on est rendu à l'étape où ce que Noé, ses fils, sa femme, les femmes de ses fils sortent de l'arche. Et maintenant, Dieu réitère le même commandement qu'il a dit à Adam et Ève de remplir la terre, de se multiplier, remplir la terre. Dieu redit le même commandement à Noé et sa famille. Et eux vont partir de l'arche et vont obéir à Dieu, ils vont s'en aller et tranquillement. On va le voir plus tard dans les chapitres 10. On va voir comment est-ce que les nations se sont développées à partir des trois fils de Noé. Et puis c'est bien décrit. Même chose pour les animaux. Dieu va donner le même commandement aux animaux de maintenant, en quittant l'arche, d'aller puis peupler la terre. Je l'ai déjà mentionné. Je le rementionne rapidement. Là, on a des animaux, on a des humains qui sortent de l'arche dans un environnement totalement différent de ce qui était avant. Entre autres, c'est pas vrai maintenant qu'ils peuvent aller habiter n'importe où, parce qu'il va y avoir beaucoup d'endroits sur la planète maintenant qui sont inhabitables. Entre autres, à la fin du déluge, on a eu une période glaciaire avec tous les changements climatiques que le déluge a apportés. C'est que déjà en sortant, ils ne voyaient pas tout de suite nécessairement eux autres, puis ils sont atterrés dans une place où il n'y a pas nécessairement les glaciers du nord et du sud, mais il y avait peut-être des glaciers dans la montagne à Ararat, tout du moins. Mais là, ils sortaient, puis là, c'est clair que là, tout d'un coup, c'est plus pareil comme avant. On a de la pluie, on a du vent, on a des montagnes abruptes. Je veux dire, la topographie est différente. Le climat est plus pareil non plus. Là, je veux dire, il ne fait plus le climat tropical comme avant. Et là, les gens vont partir, puis ils vont se rendre compte même qu'en voyageant, c'est pas facile de voyager comme avant. Le terrain n'est pas aussi facile, pas aussi praticable. Mais ce qui va arriver, c'est que autant les gens que les animaux en s'éloignant, ils vont créer des... Là, je vais surtout me concentrer sur les animaux, mais on pourrait dire la même chose que les gens. Ils vont se retrouver, ils vont bâtir, si on veut, des petits villages ou des petites tribus où les animaux vont se ramasser. Il va y avoir des petites populations qui vont se fabriquer, si on veut, à mesure qu'ils s'éloignent de l'arche. C'est-à-dire que tu as un groupe qui va arrêter là puis qui va vivre là parce qu'il y a de la nourriture là. Puis les autres, il y en a qui vont, de leurs enfants, de leur progéniture, ils vont aller plus loin parce que là, tant qu'à compétitionner pour la nourriture, là, on va aller un peu plus loin. Puis ça, c'est sur des générations, on s'entend de génération en génération, mais les animaux s'éloignent. Mais à mesure qu'ils s'éloignent, c'est qu'ils s'isolent de leurs prédécesseurs, ils s'isolent de leurs parents, qu'eux ont resté dans une région parce qu'ils ont toute la terre à la coloniser. C'est tout le fait que ces petites poches d'animaux-là. Et c'est vrai aussi pour les humains, éventuellement. Là, avec la tour de Babel, on va voir un effort de se regrouper, mais quand même, assez vite, les humains se sont aussi eux-mêmes séparés géographiquement. Puis naturellement, les gens qui se sont ramassés ensemble, ils ont cultivé la même gene pool, la même bagage génétique a été cultivé dans leur petite population, eux autres. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu rapidement une formation de race ou d'espèce chez les animaux, même chez les humains. Les humains se sont vite différenciés parce qu'il y a eu rapidement un isolement géographique. Certains ont peut-être décidé de prendre une voie migratoire, par exemple, ou aller vers le sud. Donc, ils sont allés coloniser vers l'Afrique. On le voit, on va le voir avec les descendants de Sem, Cham et Japheth. Mais ils sont allés là-bas et par un quelconque hasard, certains gènes se sont manifestés dans certains individus qui sont allés vers le sud, mettons au niveau du teint de la peau. Et simplement parce qu'eux, ils n'étaient plus en contact avec les autres qui sont allés vers l'est ou l'ouest ou avec leurs parents, disons qu'il y en a quelques-uns que ces traits-là s'est manifesté puis se sont reproduits juste entre eux. Puis éventuellement, plus que tu te reproduis en toi-même, dans ta propre population, moins tu as de chances d'aller chercher des gènes d'une autre population, plus que le gène qui s'est manifesté, disons dans ce cas-ci, le teint foncé, risque de réapparaître plus souvent dans ta population à toi, parce que tu l'as qui s'exprime, puis ta conjointe a l'a qui s'exprime aussi. C'est-à-dire que ce gène-là risque de plus s'exprimer dans tes enfants. Mais multiplie ça par plusieurs générations. À un moment donné, même le gène de peau blanche, il se manifeste même plus. Il est même plus dans la possibilité génétique. C'est que c'est juste qu'il y a un isolement qui s'est fait, puis ça a donné que les gens qui sont allés par là ont manifesté ces gènes-là. C'est que, tu sais, le continent africain qui est plus avec la peau noire, là, c'est pas parce qu'il faisait plus soleil puis ils ont bruni nécessairement. Là. C'est juste parce qu'il y a un isolement géographique qui s'est fait après le déluge. Il faut vraiment comprendre que les gens sont partis. Là, on aurait pu dire la même chose d'Adam et Ève, mais on va se concentrer sur le déluge. Il y avait tout à coloniser. Puis à mesure que tu t'en allais, il n'y a plus question de revenir en arrière. Là. Tu faisais ta vie là, puis la prochaine population dans 60 ans faisait sa vie là-bas. Puis il y en a qui ont pris des langues de terre. Étant donné qu'il y avait énormément de glace à une certaine époque après le déluge, le niveau océanique, le niveau des eaux était plus bas parce que l'eau était prise dans la glace, dans les capotes polaires. C'est que ça a révélé des land bridges, des langues de terre. Entre autres entre l'Alaska puis la Russie, la Sibérie, entre autres entre la Malaisie puis la Chine dans ces coins-là, aujourd'hui on le voit là, on voit que les fonds marins, c'est surélevé des endroits puis l'eau est beaucoup moins élevée là qu'elle est ailleurs. C'est qu'il y a des gens qui ont traversé dans leur migration, qui ont traversé dans leur recherche de nouveaux territoires pour pas être tous pognés à la même place, ils ont traversé ça. Mais imaginez cette gang-là qui a traversé, puis si après c'était plus traversable quelques années après qu'eux ont traversé à cause de la fonte des glaces, mais eux c'est encore pire leur isolement, c'est que, mettons, tous ceux qui ont traversé vers les Amériques, puis qui ont descendu les Amériques, puis il y a eu toutes les populations autochtones, Inca, Maya, toutes ces populations-là, il y a eu aussi un isolement rapide. Dans leur religion, dans leur aspect physique. L'Afrique aussi, c'est quand même un peu similaire. Tu peux te rendre en Afrique facilement par le Moyen-Orient, mais c'est pas une grosse voie d'accès. Puis après ça, quand tu descends vers le sud, puis il faut pas oublier qu'aussi à l'époque, ça a devenu un territoire assez aride assez vite. Il y a des secteurs qui sont devenus assez désertiques assez vite. Que si tu décidais de continuer vers le sud, c'est pas tout le monde qui décidait d'aller là parce que, tu sais, ça a eu beaucoup d'isolement rapide. C'est que la formation des populations telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça s'est fait suivant le déluge. Je pense que Christiane, tu voulais.
En fait, je pensais avoir compris que les personnes commençaient à s'isoler, mais à voyager aussi en raison du climat par rapport à leur gène. Pas nécessairement les gens autant que les animaux aussi, mais s'il fait froid, c'est sûr que l'abeille ne va pas aller dans une place où il fait froid, donc elle va ramasser autre part. Donc ça favorise.
C'est sûr qu'il faut comprendre que c'est probablement plus complexe que ça. Les animaux se sont répartis. Évidemment, évidemment certains animaux moins acclimatés et certains climats vont essayer de le fuir. Mais c'est pas tous les animaux qui ont pu fuir des environnements hostiles. Il y a des espèces qui se sont éteintes carrément parce qu'ils n'ont pas pu faire face aux changements dans les générations qui sont arrivées. Puis les animaux qui ont dû avoir plus de challenges, de défis à ce niveau-là, c'est les animaux particulièrement gros, puis les animaux particulièrement très adaptés. Donc, les animaux d'avant le déluge qui étaient particulièrement adaptés au climat subtropical, ou je ne sais pas, qu'il y a des adaptations plus précises, sont plus vulnérables peut-être rapidement. Les gros animaux aussi, à toute la question de la respiration pour eux, ils sont plus physiquement, peuvent être plus fragiles, plus affectés par les changements. C'est que c'est pas un hasard que beaucoup des fossiles qu'on a d'animaux éteints, beaucoup sont des gros animaux, des animaux très spécifiques. Là, il y a toutes sortes de noms pour ces animaux-là. Entre autres, on pense aux dinosaures, mais c'est pas un hasard là, que ce soit dans ce genre d'animaux-là qu'il y a eu des extinctions rapides après le déluge. C'est que oui, mais faut comprendre que, mais en même temps, les animaux, autant que les êtres humains, avaient une énorme capacité d'adaptation. On en a parlé souvent. Dieu a donné dans leur gène une grande capacité, une grande variation. C'est que il y avait possibilité de, tu sais, surtout les animaux. Les animaux font beaucoup d'enfants. C'est que dans ton lot d'enfants, t'as tellement de variations qu'il va y en avoir une gang qui vont mourir, mais il va y en avoir aussi qui vont vivre. Puis ceux-là qui vont vivre, c'est qu'ils ont les gènes qui vont les aider pour le futur à vivre. C'est qu'ils vont s'accoupler avec les cousins ou les frères ou les sœurs qui restent, là, qu'eux autres aussi ont survécu. C'est que, tu sais, c'est, au niveau des animaux, ça va vite aussi parce que le cycle de reproduction est plus rapide. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est que ça, dans le fond, là, je suis en train de juste garder ça. C'est le portrait lorsqu'on quitte le déluge, qu'on quitte l'arche. Éventuellement, oui, il va y avoir une population quelque part qui va essayer de se regrouper puis de bâtir, en bâtissant la ville de Babel, bâtir quelque chose de grand, puis ils vont avoir l'orgueil de vouloir s'élever, élever une tour jusqu'au ciel. Oui, il va y avoir un désir de se regrouper. Puis là, on va y arriver à ce récit-là où ce que Dieu va casser ça. Puis là, avec l'apparition des langues, ça va encore d'autant plus favoriser la dispersion. Là, les gens vont vraiment, parce que là, ils sont vraiment même plus capables de communiquer avec certaines personnes. C'est que là, ça donne que si toi puis moi, on piochait sur ce roche-là, puis qu'on parle la même langue qu'on vient de se faire imposer par Dieu, ben on va sûrement partir ensemble à quelque part. Je ne vais pas me pogner avec l'autre que je ne comprends rien. T'sais. C'est que c'est sûr que là, il y a eu une dispersion à accélérer à ce moment-là. Là. Du temps de Péleg. Non, on va le voir. Donc, on revient à Genèse 8, 20. On est sorti de l'arche, puis on va commencer en regardant l'offrande de Noé. Oui. Après la création? Mais le déluge, s'il n'y a pas eu de gap avant le déluge, c'est assez clair qu'il y a eu des généalogies, il y a peut-être eu des gaps, mais sans gap, c'est 1650 ans. Donc, à peu près, si on calcule de Adam jusqu'à Noé, à peu près. Okay? Après ça, c'est ça. Après Noé, les généalogies dans le chapitre 10, c'est dans ces généalogies-là qu'on voit que certains, entre autres, un cas où il y a un patriarche qui est sauté. C'est quand on dit, mettons, que tel a engendré un tel, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement son fils immédiat. Parce que dans la façon juive de faire la généalogie, tu peux engendrer quelqu'un, l'idée c'est qu'il est sorti de toi, mais ça peut être ton arrière-petit-fils. C'est que si tu viens de sauter deux générations, mettons qu'il vivait à une certaine époque, tout de suite après l'éluge, il vivait encore quand même des 4, 5, 600 ans, tu viens quand même de sauter peut-être un 1000 ans, tu sais, d'une shot. Vous comprenez l'idée? C'est pour ça qu'on se laisse un temps. Depuis le déluge, on va parler jusqu'à maintenant, peut-être dans 4000 et 4500 ans, je dirais, jusqu'à 4500 ans, peut-être à 7500. Là, on va se donner une variation de 2, 3, 4000 ans là, par principe. Assez vite, on va voir que les générations qui ont suivi Sem, Cham et Japhet, vite, ils ont colonisé des secteurs qui correspondent à l'Égypte qu'on connaît. Okay? Géographiquement, on sait que l'Égypte a été colonisée assez vite par les descendants de Noé. C'est que l'histoire égyptienne, c'est une des histoires anciennes là, qu'on connaît. Puis, selon toute évidence, même aujourd'hui, l'histoire connue de l'Égypte remonte à quelque chose comme 3500, 4000 ans, quand on a des artefacts au niveau archéologique, où on ne parle pas de méthode de datation ici, où est-ce qu'on peut vraiment avoir basé sur des faits archéologiques ou sur la datation de trucs créés par l'être humain construit. On arrive quand même avec une histoire qui correspond à l'époque du déluge, tu sais, parce que l'Égypte ancienne aurait commencé son histoire pas longtemps après, si on regarde le récit biblique, le cadre biblique, pas longtemps après le déluge, tu sais. Même chose avec la civilisation chinoise, on a moins asiatique, on a moins d'informations, mais encore, on le voit dans la répartition des peuples après, assez vite, il y en a qui sont allés vers l'Orient aussi. Mais il y a beaucoup plus d'expansion qui s'est faite au niveau du Moyen-Orient. Il y a eu beaucoup d'expansion au Moyen-Orient, nord de l'Afrique puis Europe qui s'est faite beaucoup plus rapidement que de traverser, aller vers l'Est quand même, on s'entend, là, il y a l'Himalaya qui existait aussi, je veux dire, puis il y avait des zones désertiques qui correspondent à Afghanistan et autres, là, je veux dire, il fallait que tu traverses tout ça pour te ramasser finalement en Chine, c'est qu'il n'y a peut-être pas un énorme groupe qui s'est allé là, mais ils se sont isolés aussi au niveau de connaître leur histoire, parce que toute la gang qui gardait leur propre écrit historique était plus au niveau Moyen-Orient, Europe, Nord de l'Afrique, c'est que cette gang-là ont vécu comme de quoi de séparer. Un peu comme les Amériques, c'est passé en Amérique, tu veux dire, c'est du monde qui se sont éloignés vite, c'est que c'est sûr qu'on a moins d'informations. Donc, j'étais en train de répondre à quelques questions avec ça, moi aussi. Ah oui, le timing, oui, c'est ça. Ben c'est ça. Il y en a qui ont daté 1656, le déluge, il n'y a pas eu de gap là, depuis Adam jusqu'à Noé, 1656, puis après ça. C'est pour ça qu'on dit que la Terre aurait, selon le récit biblique, entre 6 et 10 000 ans pour se donner une couple de générations qui auraient été sautées dans les généalogies, peut-être. T'sais. Mais c'est jeune, très, très jeune. Vous dites ça, c'est... bon, vous comprenez, entre quelqu'un qui croit à des millions d'années, des dizaines, centaines, 6 à 10 000 ans, c'est même pas une marge d'erreur dans une méthode de datation, c'est une poussière. C'est que tout est différent. Là. De penser que tout est si proche que ça, dans le fond, là, c'est pas si loin que ça. Cet événement-là est pas si loin, tu sais. Oui, ça change notre vision. Verset 20, chapitre 8. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Première fois qu'il y a la mention d'un autel dans la Bible. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Ça ne dit pas qu'il les a pris toutes, il en a pris deux. Okay? Dépendamment dans les traductions littérales, c'est encore plus clair. Il a pris de certaines bêtes pures et de certains oiseaux purs. Comme je vous dis, il y en avait probablement 7 individus de chaque animal pur qui était rentré dans l'arche. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » C'est que... On réalise encore ici que c'était le concept de faire des sacrifices, d'avoir un sacrifice... qui plaît à Dieu, c'était quelque chose qui avait été enseigné de la part de Dieu, demandé de la part de Dieu. On voit déjà un deuxième exemple d'une personne juste, une personne qui marche avec l'Éternel, qui fait ça. Vous comprenez, là, tu ne te vires pas demain matin et tu ne t'en vas pas couper à la gorge un animal pour faire couler son sang parce que tu as eu l'idée de faire ça. Peut-être que ça va faire plaisir à Dieu. Là. C'est assez. Déjà que tu n'es pas supposé de le manger, l'animal, c'est pas instinctivement... Si tu veux plaire à Dieu, tu vas aller tuer un animal et répandre son sang. Il y a vraiment eu un enseignement de la part de Dieu. C'est quand même assez dramatique comme exercice. Nous autres, on est très loin de ça. Tu sais, à part peut-être si tu es allé à la chasse. Mais c'est assez dramatique de tuer un animal et de l'égorger. Vous comprenez l'idée que tu répands son sang sur un truc, là, puis c'est supposé te faire plaisir à Dieu. Vous comprenez? C'est qu'il y a eu un enseignement, puis c'est clair que Noé aussi, il savait que c'était une façon pour lui de montrer sa reconnaissance à Dieu. Et plus que ça, on pourrait en parler aussi, là, mais il y a une idée déjà que le sang peut couvrir, déjà l'idée du sang peut servir d'expiation pour ton propre sang à toi. On va y arriver plus tard. Là. Toute l'idée qui est plus expliquée dans la loi mosaïque, puis aussi avec l'Évangile. Donc, ça a dû être un sacrifice considérable. On ne sait pas combien de temps ça lui a pris. C'est pas mentionné si c'était une journée ou plusieurs journées. Ça a dû être un sacrifice considérable. Pensez juste, mettez-vous dans la peau de Noé. Là, ils viennent de passer à travers toute une... Tu sais, quand on voit dans les psaumes, là, quand je suis dans la vallée de l'ombre et de la mort, tu es avec moi. Là, mais lui, il vient de passer à travers sa vallée pendant un an, là, toute une affaire. Là, ça a dû être... il a fait confiance à Dieu. Ça dit, j'ai un verset dans Hébreu qui dit que c'est avec une crainte respectueuse qu'il a abordé le déluge. Dans Hébreu, ça le dit, et Noé avait une crainte respectueuse, mais on peut comprendre que, oui, il craignait l'Éternel, il faisait confiance à l'Éternel, mais il avait une crainte respectueuse de Dieu, puis, il avait aussi, puis vis-à-vis la situation qui s'en venait aussi, il faisait confiance à Dieu. Imaginez-vous qu'il sort, il est vivant, sa famille est vivante, Dieu, il redonne une deuxième chance à l'humanité. C'est clair que Noé a une reconnaissance énorme envers Dieu pour ce qu'il vient de faire. Là. Il vient de le sauver. Là. Et pas n'importe comment, là, Noé a vécu un an à travers une catastrophe. Là. Ça a dû être vraiment quelque chose. Puis pensez aussi que Noé, il sort, là, puis il sort dans un nouveau monde. Là. Lui, il est plus... il a vécu 500 ans sur la Terre avant le déluge, mais là, il sort dans un monde qui est tout à fait inconnu pour lui. Il n'est pas habitué de voir ce qu'il va voir. Il y a beaucoup de changements. Juste qu'il fait frette en sortant ou qu'il vente. C'est comme là, les nuages, puis là, tout c'est désertique parce que là, il faut que ça se rebâtisse, la nature, la végétation. Là, on est sur une montagne qui est pas mal plus haute que j'ai jamais vue. Il faut que je descende. Il y a un aspect aussi que Noé est encore challengé à vivre par la foi. D'autant plus qu'il sort, puis il est vraiment dans l'inconnu pour vrai. T'sais. C'est que certainement que dans son sacrifice, il y a ça aussi. Il faut... pense à ça qu'il était en train de prier Dieu pour le futur. T'sais. Il est conscient aussi qu'il est seul qui a été sauvé avec sa famille. C'est clair qu'il est conscient de la grâce que Dieu lui a faite, mais il y a certainement aussi dans son sacrifice une idée d'intercession pour sa famille à lui, là, parce qu'ils vont se mettre de ses descendants, la terre va être peuplée au complet. Puis Dieu aime ces gens-là autant qu'il l'a aimé lui. C'est qu'il y a certainement, Noé a une pensée pour nous aussi, t'sais, pour sa descendance. Dans son sacrifice, c'est certainement une intercession à Dieu, je te prie pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants maintenant qui vont affronter cet inconnu-là devant eux. une prière pour qu'il marche dans tes voies, puis que ça ne recommence pas à devenir comme c'était avant le déluge, tu sais, que on marche dans tes voies. Tu sais. Pensez à Noé, là, il est tout seul, ils sont juste 8. Là, tu sais, c'est qu'il est pas, je ne prie pas pour les autres pour qu'ils se convertissent. De ma famille, ça va sortir la nouvelle population. Certainement qu'il a prié pour nous, il a prié pour sa descendance. Et ce sacrifice-là a été certainement un grand sacrifice et ça a été une odeur agréable à Dieu. C'est mentionné que Dieu a senti une odeur agréable. Donc, le sacrifice a eu une grande portée. Le verset que je voulais mentionner, c'est Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, on avait déjà lu ce verset-là, mais je voulais m'arrêter sur l'idée de la crainte. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, donc la pluie, l'avènement de la pluie, le déluge, et saisi d'une crainte respectueuse. Quand Dieu lui a dit de bâtir l'arche, il marchait avec l'Éternel, mais je veux dire, il faisait confiance à Dieu, puis il avait une crainte respectueuse quand il a reçu l'avertissement. Donc, c'est avec une crainte, puis c'est avec la foi. Donc, un être humain, il y a la crainte, mais il y a la foi. Il a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, autant que Adam et Ève, autant que Abel, autant que nous, a été justifié, non pas pour l'œuvre d'avoir construit l'arche, mais pour la foi qu'il a eue dans sa vie. Sa foi s'est manifestée en construisant l'arche, en faisant confiance à Dieu. Mais lui aussi a été justifié par la foi, comme nous. Donc, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice certainement de propitiation, une idée où ce que le sang qui coule lorsque tu sacrifies une victime, il y a vraiment une idée que c'est pas juste, il y a un symbole derrière ça. Puis on peut facilement comprendre que Noé et les autres justes d'avant le déluge comprenaient ce qu'il faisait lorsqu'il faisait couler le sang. On le voit plus tard, lorsque Dieu l'a institué la loi sous Moïse, il a expliqué pourquoi le sang devait couler. On arrive dans le Nouveau Testament, on comprend, Paul nous enseigne pourquoi le sang de Christ a dû couler. Puis dans Hébreux, on nous l'explique, mais c'est le même principe qui avait dû être expliqué aussi à Noé, puis qui comprenait ce qu'il était en train de faire. Dieu, et là c'est intéressant, la prochaine chose que Dieu dit après avoir senti l'odeur du sacrifice, il rassure Noé, il rassure les êtres humains, il leur dit, écoutez, Dieu est en train déjà de calmer, c'est comme si Noé avait des appréhensions, tu sais, Noé, il vient de vivre un jugement, est-ce que ça va se reproduire, est-ce que ma descendance va marcher toujours, est-ce que ça va se reproduire ce qu'on vient de vivre, puis Noé tout de suite calme les appréhensions, l'Éternel calme les appréhensions, il dit, qui ne maudira plus l'homme à cause de la terre. Je ne maudirai plus la terre, excusez-moi, à cause de l'homme. Donc, Dieu juste met ça clair tout de suite. Et là, c'est intéressant, on va voir les raisons pourquoi il fait ça. Donc, Dieu, quand il dit, il n'y aura plus une nouvelle malédiction sur la terre. Celle du jardin d'Éden, la malédiction là, de la terre qui a été maudite suite au péché d'Adam, celle-là, cette malédiction-là demeure. Mais Dieu ne rajoutera pas une autre malédiction sur la terre, il ne renverra plus une autre malédiction, non plus une autre destruction totale de la terre comme le déluge l'a fait. C'est que ça, c'est une promesse que Dieu a dit à ce moment-là, puis il va la réitérer plus tard avec l'alliance de l'arche. Et ce qui est intéressant, c'est la raison pourquoi Dieu dit qu'il n'enverra plus le déluge sur la terre. Il dit, je renverrai plus le déluge sur la terre à cause que l'homme est naturellement mauvais, parce que les penchants de son cœur sont vers le péché. C'est intéressant, c'est pour cette même raison-là qu'il a envoyé le déluge. On revient dans Genèse 6, ça nous dit que chaque jour, l'homme, son cœur, ses pensées pointaient vers le mal. Et pour ça, Dieu a envoyé le déluge. Pourtant, ça a l'air de se contredire. Tout d'un coup, il dit, j'enverrai plus le déluge parce que le cœur de l'homme est naturellement mauvais. C'est ce qu'on appelle en théologie la dépravation totale. Vous savez, c'est quoi la dépravation totale? C'est que naturellement, l'homme est mauvais et naturellement, laissé à lui-même, l'homme, tout son être va vers le mal. On n'est pas bon, il n'y a rien de bon en nous, si ce n'est qu'à travers la justice de Christ. C'est ça la dépravation totale, et c'est une façon ici que Dieu l'exprime. Il dit, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et à cause de ça, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme j'ai fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça nous révèle Dieu à ce point-ci. Dieu n'est pas juste un Dieu juste. Dieu aussi est un Dieu gracieux. Et C'est pour ça que c'est pour la même raison qu'il a envoyé le déluge. Sa justice demandait que le déluge soit envoyé pour punir le péché, mais sa grâce demande, étant donné qu'on est pécheurs, laissés à nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir, sa grâce demande qu'il nous sauve lui-même, parce qu'on ne peut pas de toute façon se sauver nous-mêmes. C'est que sa grâce de Dieu, ça demande qu'il la répande sur nous et qu'il nous donne un moyen de salut à cause qu'on est dépravés. Vous comprenez l'idée? Puis en Christ, les deux réalités se retrouvent. Tu sais, en Jésus, il n'y a pas juste la grâce de Dieu qui s'est manifestée en Jésus, il y a aussi sa justice. Jésus est mort, là. Ça a coûté sa vie. Justice a été faite lorsque Jésus est mort sur la croix. Mais vu que Dieu, dans sa grâce, vu qu'il nous aime, Dieu a décidé qu'il ressuscitait Christ et qu'il nous donnait une possibilité d'obtenir sa justice à lui. Tu sais, il n'était pas obligé de le faire, c'est parce que Dieu est amour et Dieu est gracieux. Mais Dieu est capable de nous donner la justice de Jésus tout en étant juste. Paul nous enseigne là-dessus à un moment donné. Dieu n'a pas été injuste par rapport à sa justice en nous donnant la justice de Jésus. Parce que j'obtiens la justice de Jésus aujourd'hui, mais Jésus a dû quand même payer pour que justice soit faite. C'est que Dieu a demeuré juste, mais Dieu est tout à fait gracieux parce que j'obtiens une justice que je ne mérite pas. Comprenez l'idée? La même chose, la déluge, c'est la même idée. On retrouve le même Dieu qui est gracieux et qui est juste. Il est juste parce qu'il envoie le déluge à cause de la dépravation totale. Mais constatant la dépravation totale, l'être humain va, tu sais, si on continue, va en avoir là, pour l'éternité des déluges. Là, parce qu'on va toujours être dépravé et on va recommencer les mêmes affaires. Dieu décide de dépendre de sa grâce et dire, à cause de ça, je vais pas envoyer, j'enverrai plus le déluge. Puis là, on connaît le reste de l'histoire, il envoie éventuellement son fils. Mais c'est intéressant, on apprend à connaître Dieu déjà à travers le déluge. Verset 8, excusez-moi. Lorsque je parlais de la grâce de Dieu, aussi juste deux versets pour supporter le fait que Dieu... La grâce de Dieu est manifeste dans le déluge. On l'avait vu au verset 8 du chapitre 6. Mais Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Je ne reviendrai pas. Genèse 5, 29. On voit aussi la grâce de Dieu dans le nom que Lamech, le père de Noé, lui a donné à Noé. C'est un nom qui veut dire repos. On l'avait vu ensemble. Il lui donna le nom de Noé en disant, « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Parce que c'est à travers Noé qu'on a la possibilité de recommencer à zéro. Et je l'ai mentionné tout à l'heure au début du cours, mais je veux juste revenir encore là-dessus rapidement. On a deux manifestations aujourd'hui. On a deux comme une grosse manifestation de deux jugements. Aujourd'hui, on peut constater la chute qu'il y a eu à l'époque, la chute d'Adam et Ève. On la constate aujourd'hui dans notre nature pécheresse. La nature pécheresse, pour nous, est une constatation qu'il y a eu chute à un moment donné. Et même dans la nature, lorsqu'on regarde la nature, puis on voit que la nature, les lois de base en science, comme les lois de la thermodynamique, pour ceux qui connaissaient ça, où est-ce que la nature va se désordonner par elle-même, laisser à elle-même, il y a de l'ordre qui augmente, il y a du désordre qui augmente dans l'univers. C'est une belle manifestation, un beau rappel de l'événement de la chute. Le déluge, quant à lui, comme je l'ai mentionné, le déluge, on a des rappels partout du déluge aujourd'hui. Où est-ce qu'on les voit, les rappels du déluge? Écoutez, il n'y a pratiquement pas une place sur la croûte terrestre où ce n'est pas un résultat du déluge. Fait que je regarde des roches sédimentaires sur les continents, résultat du déluge. Je regarde les strates, résultat du déluge. Je regarde les grandes montagnes puis les grandes vallées, les gorges profondes dans les océans. Je regarde les terrains volcaniques, les volcans en action. Toute la géologie actuelle est un résultat du déluge. C'est que si, et toute cette géologie-là, elle est catastrophique. Je me retourne d'abord et je constate qu'à travers la planète au complet, il y a un cimetière de fossiles. La planète est un cimetière de fossiles. On en trouve partout. Encore là, c'est un témoignage qu'il y a eu déluge. Puis on ne le trouve pas juste à une place. Des fossiles, il y en a partout. Comme je vous ai dit, là... Même dans le top des, au top des, même en haute altitude, parce que ils ont été fossilisés à un moment donné au niveau du sol, ces animaux-là, puis lorsqu'il y a eu les contacts entre la croûte terrestre, et lorsqu'il y a eu les mouvements, mais les montagnes qui se sont formées par la rencontre, le fracas des plaques tectoniques, mais ils ont fait monter la croûte dans les airs avec les fossiles. On en trouve partout, là, on en a ici en Montérégie, là, dans les carrières, ils concassent le gravier, je l'ai déjà mentionné. Tout bout de champ, on trouve des coquillages imprimés dans le gravier. Là. C'est des fossiles. Là. C'est que ça, là, je regarde la petite gravelle-là, là, ben, il y a 4000, 6000, 7000 ans. Là, ben, ce coquillage-là s'est fait étamper. Là. J'ai un témoignage au déluge. Puis là, j'envoie ça à mes employés. T'as un témoignage au déluge. On en a partout. Et juste les évidences de catastrophes au niveau planétaire. Partout où il y a des évidences de catastrophisme, c'est des évidences au déluge. Et je reviens avec le texte de 2 Pierre 3. Je trouve tellement que c'est un texte qui est prophétique, qui est à propos pour notre âge. Et je vais le relire tranquillement, les versets 3 à 13. Je me rends jusqu'au verset 13. Parce qu'on a ce témoignage-là évident qu'un jour Dieu a créé. Aujourd'hui, là, si tu fermes pas tes yeux, tu peux voir dans la création qu'il y a créateur. Ça n'a pas apparu tout seul. Ça, si t'es pas influencé par ta propre folie, par ton propre péché, tu ne peux pas faire autrement que de réaliser qu'il y a un créateur. Et si tu regardes aussi humblement autour, tu ne peux pas faire autrement que réaliser qu'un jour, il y a eu une catastrophe, tel un déluge. Et là, on arrive en 2 Pierre 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, nos jours à nous, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Donc, si ça moque, ils disent, quand est-ce que Christ va revenir comme il vous l'a promis? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Voilà l'argument du moqueur. Il dit, écoute, pourquoi que Dieu interviendrait dans le futur? Depuis que les pères sont morts, depuis l'origine des temps, tout demeure comme dès le commencement de commencement de la création. Dieu intervient pas. Les choses vont libre cours. Et on tombe au verset 5, ils veulent ignorer en effet. Puis c'est pas n'importe quoi qu'ils veulent ignorer, c'est les deux choses que je viens de vous mentionner. C'est volontairement une ignorance volontaire, OK? C'est pas parce que c'est pas intelligent le déluge, puis c'est pas intelligent la création, là. Si ta raison n'est pas noircie par le péché, c'est l'évidence même, OK? Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Dieu a créé par sa parole. Dieu dit, cela fut. Vous vous rappelez dans Genèse 1. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Une référence ici à Genèse 1, verset 3, 4, où on voit que Dieu a formé la matière à partir de l'eau. Il y avait de l'eau dès le verset 2 de Genèse 1. On s'en rappelle l'abîme, que l'esprit était à la surface de l'abîme. Et Dieu a formé le sec en rassemblant l'eau à un endroit, puis il a formé le sec à un autre endroit. Donc, il a formé la terre à partir de l'eau. C'est vraiment une référence ici à Genèse 1. Et au verset 6, et que par ces choses, c'est-à-dire par l'eau et la terre, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Il est en train de faire une référence directement au déluge. Ils veulent ignorer qu'il y a eu une époque, par la terre et l'eau, le monde d'alors a été submergé. Le monde d'alors a péri. Et là, Pierre revient à son argument, tandis que par la même parole de Christ, les cieux et la terre actuels, de présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est Pierre revient à son point, il dit non, Dieu est intervenu dans le passé, Dieu est intervenu à travers la création, à travers le déluge, et Dieu se réserve cette planète un jour pour aussi réintervenir, et il va y avoir un autre jugement éventuellement qui va embraser ce monde, ça va être par le feu. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. Pourquoi c'est long tout ça? Là, c'est là l'argument de Pierre. Pourquoi ça vous semble si long? Pourquoi on se fait écœurer parce qu'on dit qu'on attend quelque chose qui n'arrive jamais? Il ne faut pas oublier que les premiers chrétiens, là, ils s'attendaient que ça s'arrive demain matin, l'avènement de Christ. Là, on est 2000 ans plus tard, mais Paul avait une urgence. Les chrétiens avaient une urgence, s'attendaient, ça arrive bientôt. Puis il y a eu des affaires qui sont arrivées en l'an 70, lorsqu'il y a eu la destruction du temple, les trucs comme ça qui faisait penser que c'était pour bientôt l'avènement de Jésus, le retour de Jésus. Et là, Pierre encourage, il ne donne pas une équation mathématique ici, il encourage les croyants, il leur dit, je veux que vous n'ignoriez pas que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Dieu n'est pas temporel, n'est pas dans le temps comme nous, on attend une minute après l'autre. Dieu est en dehors de ça. C'est que lui, 1000 ans, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans. C'est que pour lui, c'est pas comme s'il a attendu 2000 ans pour envoyer Christ. Pour nous, c'est ça, mais pas pour lui. Dieu n'est pas dans le temps comme nous. Et là, Pierre encourage les croyants. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il dit, Dieu ne tarde pas. Dieu n'est pas en retard. Pourquoi? Comme quelques-uns le croient. Pourquoi Dieu est comme ça? Parce qu'il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça que Dieu retarde le retour de Christ. Il veut que tous parviennent à la repentance. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Un super beau texte, un super encouragement pour des chrétiens qui subissaient les moqueries de ceux qui ne croient pas dans l'intervention de Dieu dans l'histoire. Un encouragement à dire « Non, Dieu va intervenir, il va avoir jugement encore. » Et nous, on est dans l'espérance du jour, ce que Dieu va prendre cet univers actuellement, va le détruire par le feu, puis va recommencer à zéro avec un nouvel univers, puis une nouvelle planète, où est-ce que la justice va habiter, puis on pourra y vivre en présence de l'Éternel. Toute une espérance lorsqu'on pense à ça, puis on en a déjà parlé, là. Et on arrive finalement à la fin du chapitre 8, le début de l'uniformité. J'ai appelé ça le début de l'uniformité. Je vais vous envoyer mes notes en passant là, cette semaine. Maintenant, on arrive au verset 22 et là, on commence ce qu'on appelle l'uniformité. Ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, à partir du déluge, Dieu a décidé qu'il laissait les choses et processus naturels fonctionner. Et voilà aujourd'hui qu'on regarde dehors, puis on voit le cycle hydrologique, puis on voit, tu sais, les saisons qui se répètent une après l'autre, puis on voit, bon, on voit le jour et la nuit qui se répètent, tout ça, toute cette uniformité-là de processus, mais Dieu l'a établi après le déluge. Et c'est juste dans ce monde actuel-là qu'on peut faire de la vraie science, parce que la vraie science, c'est regarder dehors puis étudier ce qui se fait présentement. Puis ce qui se fait présentement, ça a commencé suivant le déluge. Verset 22, « Tant que la terre subsistera, il va y avoir une uniformité, il va y avoir des cycles, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu est encore en train de faire une promesse. « Tant que je ne détruirai pas cette terre, vous pouvez vous attendre que les choses vont rouler leur cours, les processus naturels que j'établis, que je soutiens, vont faire leur cours. » Et c'est intéressant ici, Dieu mentionne des nouveaux cycles qu'il n'y avait probablement pas avant le déluge. On avait le jour et la nuit avant le déluge, mais on n'avait pas l'été et l'hiver. On n'avait pas le froid et la chaleur. Les semailles et la moisson, pas à l'étendue qu'il dit là, parce que les semailles et la moisson sont vraiment reliées souvent aux saisons de pluie ou au temps pluvieux de l'année. C'est toutes des nouvelles circonstances qui sont apparues à cause que la couche d'eau a disparu durant le déluge. Tout d'un coup, c'était possible d'avoir des saisons de pluie et d'avoir des saisons agricoles. Tout d'un coup, c'était possible d'avoir du froid et de la chaleur. Là. On ne parle pas juste du différentiel de quelques degrés entre la nuit et le jour, là. Le froid et la chaleur. L'été et l'hiver, maintenant, c'était possible d'avoir des saisons prononcées. Pas qu'il n'y en avait pas certaines saisons avant, mais là, on a des saisons l'été et l'hiver. T'sais. C'est intéressant qu'on a ça qui arrive direct après le déluge. Et tous ces phénomènes-là qu'on vient de voir vont tous être influencés en grande partie par la rotation de la Terre sur elle-même puis sa révolution autour du Soleil. Le Soleil étant la source d'énergie, la principale, qui régit pratiquement tous ces phénomènes-là. Tous ces phénomènes-là sont pratiquement reliés avec l'énergie solaire qui rentre dans notre atmosphère puis qui crée tout ce que ça crée. Autant le cycle d'évaporation de l'eau, autant les saisons, la météo, le jour et la nuit. Tout relié au fait qu'on tourne sur nous-mêmes puis qu'on tourne autour du soleil. Et maintenant, c'est Dieu qui permet que ça continue. Juste basé là-dessus, on a tous ces cycles-là. Oui, avant, il y avait ça, mais en n'ayant plus la couche d'eau, mais c'est quand même, l'énergie vient de où? Elle vient du soleil actuellement, puis c'est ça qui drive, excusez-moi le terme français ici, qui drive tous les cycles. Et c'est Dieu qui a institué ce processus d'uniformité-là. Et là, je vois juste une petite citation. Évidemment, ce sont seulement ces procédés-là actuels que les scientifiques peuvent observer, décrire et analyser. Le présent et non le passé ou le futur est le domaine approprié de la vraie science. Dans le fond, si on veut vraiment avoir l'humilité de faire de la vraie science, on va analyser, observer dans les phénomènes présents, dans le monde présent. Parce qu'on ne sait pas dans le passé si ces processus-là étaient là. Puis ici, dans le texte, ça nous dit que le déluge a changé les choses. C'est seulement après le déluge qu'on peut dire que là, on fait de la science sur ce qu'on voit là. Puis là, je peux faire des constats. Mais quand on commence à faire de la science sur des choses qu'on n'était pas là dans le passé, puis on fait c'est correct de faire des modèles, mais après ça, qu'on l'impose sur les gens, que tu sais, là, 400 millions d'années, il y a telle affaire, puis c'est de même que ça fonctionnait. C'est pas de la vraie science parce qu'on ne peut l'observer. On ne peut l'observer, c'est pas des phénomènes actuels. On peut pas confirmer que les phénomènes actuels avaient lieu à l'époque. Mais ça, Dieu nous dit que depuis le déluge, les choses demeurent comme elles le sont maintenant et qu'on peut vraiment les observer et apprendre de notre monde actuel. Et on arrive au chapitre 9 que j'ai intitulé « Le nouveau monde ». Et pourquoi j'ai appelé ça le nouveau monde? C'est que si on va dans 2 Pierre 2:5, même les Écritures nous le confirment que les choses ont changé en grande avec le déluge. 2 Pierre 2:5, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Dans 2 Pierre 2, donc, si Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, c'est vraiment un nouveau monde après le déluge. La terre n'est plus la même qu'avant. Et on va le voir aussi dans l'embarquant au début du chapitre 9, il y a plein de choses qui changent là. Tout d'un coup, Dieu va nous permettre d'avoir un nouveau rapport entre nous et les animaux qui n'étaient pas là avant. Nouvelle possibilité de nourriture. Dieu va faire une nouvelle alliance avec l'arc-en-ciel. Les choses sont nouvelles après. Non seulement nouvelles au niveau physique, mais c'est nouveau aussi au niveau de nos rapports avec la création. Est-ce quelqu'un qui peut me dire l'heure avant que j'embarque dans le quoi puis qu'il me reste plus de temps? -5, OK. Je vais terminer avec ça, avec un nouveau rapport avec les animaux, versets 1 à 4. Versets 1 à 4, Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Là, ça va faire la deuxième fois qu'il dit la même chose, il va même encore le répéter. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Nouvelle relation, nouveau rapport avec les animaux. Et maintenant, le rapport avec les animaux n'en est plus un de domination où est-ce que Adam et Ève pouvaient dominer sur toute la création. Quand on dit dominer, ce n'est pas au sens négatif. Ils avaient une capacité de régner sur tous les animaux. Il y avait une certaine soumission même de la part des animaux parce qu'ils pouvaient dominer sur eux au complet. Et d'être des bons intendants aussi dans leur domination. On ne parlait pas, Adam et Ève n'étaient pas là pour faire du mal, mais ils pouvaient utiliser les animaux à leur propre fin. Mais cette domination-là, puis cette harmonie-là, où il y avait soumission des animaux envers eux, puis eux, une possibilité de domination, elle vient de disparaître ici, tout du moins pour tous les animaux qui sont mentionnés là, au lieu que ça soit cette relation-là, maintenant une relation de terreur. C'est que les animaux ont peur de l'être humain a peur des animaux, puis le plus fin finot des deux, c'est l'être humain, c'est qu'il va aussi y être quoi, il va se débarrasser des animaux qui lui font peur. Puis c'est à un point la terreur que même des animaux vont se permettre de tuer des êtres humains. On va le voir plus tard. Puis Dieu va demander le sang à l'animal qui tue l'être humain. Mais il y a possibilité même que l'animal, dans sa terreur, va tuer l'être humain. Le rapport est totalement changé. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans la liste d'animaux mentionnés, il n'y a pas les animaux domesticables comme le bétail. Ils ne sont pas mentionnés. Lorsqu'on retourne dans Genèse 1, on voit toutes les classes d'espèces d'animaux terrestres que Dieu a créées. Puis il mentionne le bétail. Le bétail ici n'est pas mentionné dans les mots hébreux. C'est qu'il y a quand même, encore des animaux que l'homme était capable de domestiquer, avec lesquels il y avait une relation qui n'était pas basée sur la terreur, comme toute la classe d'animaux ici. Ici, on voit vraiment que la terreur est là avec tous les animaux terrestres, les animaux qui vivent sur la terre, les animaux sauvages, tous les oiseaux, tous les animaux qui rampent au ras-le-sol. On fait référence à le mot reptile qui était utilisé dans le chapitre 1 aussi, tous les poissons de la mer. C'est qu'il y a quand même, certains animaux où est-ce que. Donc, tous les animaux purs, entre autres, là, que Noé devait probablement garder comme bétail, donc était capable de domestiquer pour s'en servir, pour sa propre nourriture, pour les sacrifices, tout ça. Mais en général, il y a une terreur qui est installée. Même avec ces animaux-là, on s'entend que ce n'est plus des animaux qui se domptent aussi facilement, probablement, qu'ils pouvaient se dompter avant. Là. Je veux dire, même aujourd'hui, oui, la vache a l'air gentille dans le pré. Je ne suis pas sûr qu'on peut juste aller prendre la vache puis faire ce qu'on veut avec non plus. T'sais. On ne peut pas la prendre par le collet puis tu viens t'en ici, toi. T'sais. Bon, elle est quand même moins rough à domestiquer que si on allait chercher une gazelle. OK, c'est sûr qu'on... Oui. Tout à fait aussi. C'est qu'il y a... Tout à fait. Donc, oui, il y a des animaux qui sont plus domesticables, mais c'est encore possible aussi qu'il y ait un... Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Avec Adam et Ève, c'était ça l'idée. Là. C'est vraiment un mot hébreu qui fait référence à... parce que nous, bétail, on pense à de quoi, mais il faut vraiment répondre, ça fait référence à l'idée que l'animal est domesticable. C'est un animal qui est moins, qui est approchable pour l'être humain. T'sais. C'est que ça peut être même des animaux qui vont servir au sacrifice. Ce n'est pas nécessairement des animaux comme on pense aujourd'hui. Et on se ramasse ici avec une autorisation de manger de la viande aussi. Et ça, on le voit dans le texte. Avec une exclusion qu'on ne doit pas manger le sang. Et il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus. J'ai l'impression qu'on approche 9h, c'est que ça a peut-être mieux que je n'embarque pas là-dedans. Si vous voulez y penser, peut-être cette semaine, avez-vous des idées? Avez-vous des idées pourquoi, d'un coup, Dieu aurait autorisé de manger de la viande? Ce n'est pas dit dans le texte, là, puis mais il y a peut-être des raisons à ça aussi, pourquoi. Ça allait pousser éventuellement, là, mais ouais. Pendant l'année qu'il était dans l'arche, il y avait assez de nourriture pour se nourrir pendant l'année. Dieu il a amené des provisions. Non. Une des possibilités, c'est que maintenant, c'est plus aussi facile vivre. Okay? Juste au niveau corporel, tu dois lutter contre le climat quand tu vis. Tu dois lutter contre bien des affaires qui, dans un climat parfait auparavant, étaient différentes. C'est peut-être au niveau métabolique. L'apport protéinique de la viande pouvait amener de quoi de substantiellement là, à considérer. Là, c'est juste des théories, là, je dis, mais ça peut être considéré. Parce que c'est clair que l'être humain allait plus vivre là. Aussi facilement qu'avant. Puis c'est clair que dans la viande, tu vas chercher quand même un apport protéinique peut-être plus rapide que dans d'autres nourritures. C'est que c'est... Aussi, c'est sûr que la végétation n'était pas tout encore poussée, mais ça allait venir assez vite quand même, mais bon. Possible aussi. C'est que là, on sait juste des idées, puis une autre idée qui a été lancée, je termine avec ça, c'est que de pouvoir manger les animaux, ça rehausse aussi ta différence entre l'être humain et l'animal. Le fait qu'on n'est pas des animaux, nous autres, que les animaux sont vraiment inférieurs à nous. Si j'ai le droit de manger si j'ai le droit de manger mon voisin, là, ben c'est pas à quelque part, je ne suis pas égal en valeur à mon voisin. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas oublier que les idées évolutionnistes, ce n'est pas des nouvelles idées. Là. Des idées païennes où est-ce qu'on est autant des animaux que le reste de la création, qu'on est au même titre que le reste de la création, c'est des idées païennes qui datent d'énormément longtemps. Là, aujourd'hui, on l'a modifié sous une théorie qu'on appelle l'évolution, où ce que moi, je n'ai pas plus de valeur que le petit chat à côté de moi, donc protégeons les chats puis protégeons les humains. Mais ça, c'est quelque chose d'horrible à dire ça. Non, protégeons les humains, puis on protégerait les chats après, parce que les humains ont une valeur beaucoup plus grande. Ça ne se compare pas avec la valeur d'un chat. Okay? Mais si moi, j'ai le droit de manger le chat, bien, Dieu est en train de mettre une différence claire entre le chat et moi. Voyez l'idée? Et pour l'être humain, ça apporte aussi un rapport de force. Okay, l'animal est là, je suis là, tu sais. C'est pas marqué dans le texte. Je vous suggère des idées pourquoi aussi que ça a pu Dieu a pu amener ça. Dieu sait fort bien que les êtres humains vont développer encore plein de religions païennes suivant le déluge, puis ça va, tu sais, c'est que ça va virer encore tout croche. Mais il y a ça, puis il y a vraiment le fait que maintenant tu vis dans un environnement difficile. Tu as beaucoup d'énergie à dépenser juste pour te tenir au chaud, juste pour voyager, pour lutter pour ta survie. Je suis pas un nutritionniste, là, mais il me semble dans ma tête qu'un steak, ça doit aider des carottes à journée longue. Il me semble qu'il m'a manqué d'énergie maintenant. Bon, ça, c'est mes préjugés ici.